Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours au Grand Palais sur Radio Immo et Radio Territoria pour vous faire vivre cette troisième et dernière journée de la cinquième édition du CIPCA, le salon immobilier bas carbone, où nous continuons à recevoir de nombreux invités. Pierre-Yves Guis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes directeur général de Paris La Défense. Merci de répondre gentiment à nos questions. Pourquoi c'est important, tiens, de venir par exemple sur ce salon pour vous ?
Alors, c'est important déjà pour sa place dans le calendrier. C'est un rendez-vous de rentrée qui s'installe, je crois, pour sa cinquième année. Donc, oui. C'est toujours bien de remettre un peu les pendules à l'heure et reprendre les affaires le plus vite possible. Et puis, au-delà de ça, c'est le premier événement de ce genre entièrement dédié au bas carbone, à la construction, à l'aménagement, à l'immobilier bas carbone. C'est donc complètement en phase avec ce qu'on s'efforce de faire de la Défense depuis 5-6 ans, c'est-à-dire de transformer le quartier dans son ensemble en un territoire d'expérimentation, d'application du bas carbone. Donc, c'est tout à fait légitime, d'une part, qu'on y soit présent et d'autre part, qu'on puisse y faire valoir et discuter de nos projets et des choses qui se passent actuellement sur le territoire.
Évidemment. La Défense peut-elle rester le premier quartier d'affaires européen tout en devenant un territoire plus mixte, plus habité, plus résilient et peut-être moins carboné? Ça, c'est un vrai sujet, j'imagine. Et vous n'avez pas attendu, évidemment, cette cinquième édition pour y réfléchir.
Non, certainement pas. Alors, je renverserai un peu la formulation de votre question. Nous devons faire tout ça pour rester le premier quartier d'affaires européen, quatrième mondial, ce pôle et ce moteur économique pour le Grand Paris et pour la France que la Défense a toujours été. C'est vraiment toute l'histoire de ce qui se passe sur le territoire depuis une petite dizaine d'années, qui a été accélérée, bien sûr, par le Covid et les événements de ces dernières années. On doit tirer le bilan qui n'est pas que positif d'un aménagement très typé 20e siècle, intensif en énergie fossile, en carbone, très minéral, etc. Gardez ce qui marche. Il y a des choses qui marchent. Il faut le rappeler, le marteler. La qualité de l'offre immobilière, son rapport qualité-prix, plus généralement, qui se confirme jour après jour, année après année, dans la bonne tenue du marché immobilier, le taux de vacances qui a recommencé à baisser. La desserte en transport en commun qui continue de s'améliorer. Donc, ces fondamentaux, ils existent et on les conforte. Mais à côté de ça, on a effectivement pas mal de champs, de marge à rattraper.
Bien sûr.
Et si possible, d'avance à reprendre sur le bas carbone, sur la durabilité, sur la soutenabilité du quartier.
Le taux de vacances a diminué.
Le taux de vacances a atteint un pic un peu après le Covid, autour de 15%, sous l'effet, alors pas tant, c'est un peu l'explication trop rapide, qu'on donne des départs d'entreprise. Il y a très peu de départs d'entreprise. Il y en a eu, je crois, 3 l'année dernière. C'est toujours sur les doigts d'une main.
Ils ont réduit, en fait, le...
Mais d'une part, des réductions, effectivement. Ouais. Des gens qui se réengagent, enfin, toutes les entreprises font ça et connaissent ça, et c'est parfaitement légitime. Le flex-office, le télétravail, ce sont des réalités. Et puis aussi, l'effet un peu retard de la livraison de gros paquebots, de gros ensembles de bureaux en blanc qui avait été lancé avant le Covid. Donc il nous a fallu le temps de digérer ça, de fermer les robinets, on l'assume, il n'y a quasiment plus, enfin il n'y a plus aujourd'hui de construction de bureaux en blanc, il y a des réhabilitations, mais les constructions en blanc, il n'y en a plus, et donc le marché s'organise aujourd'hui pour utiliser ce qui est déjà là, ce qui est parfaitement légitime et vertueux. Et donc voilà, et donc c'est là que l'offre se place, on le voit, les grosses transactions, les grosses opérations, les grands occupants qui sont venus, qui sont en train de venir récemment, ces casinos qui va emménager dans les prochains mois dans la Tour Blanche, une tour existante. C'est Unibail Rodamco Westfield qui vient d'engager les travaux d'aménagement de son futur siège social dans le CNID, dans des bureaux existants là encore. C'est, on le sait, Sanofi qui viendra l'année prochaine dans une opération qui est largement mise en valeur par Eurocipca, l'opération CB3, un immeuble des années 70 qui fait l'objet d'une rénovation bas carbone exemplaire. Donc tout ça, c'est de l'existant qu'on recycle et auquel on donne une deuxième, une troisième vie.
Et la Défense continue d'attirer, quoi. C'est ça aussi que ça veut dire.
Mais la Défense continue d'attirer. On l'a vu, je le disais, dans la tenue du marché immobilier. Statistique n'est pas vraiment intuitive, mais 2024 et 2025, chacune, ont été les deux pics historiques en termes de nombre de baux signés dans le quartier. Il y a eu plus de 100 entreprises, plus de 100 baux qui ont été signés. Donc parfois sur des petites surfaces, hein, clairement. La granulométrie, la morphologie de la demande évolue.
Oui,
elle se diversifie. On a moins de très grandes transactions.
On réduit les mètres carrés.
On réduit les mètres carrés, ce qui nous permet au passage d'attirer des occupants qui ne seraient jamais venus à la Défense parce qu'ils n'auraient pas trouvé d'offres et ils n'auraient pas trouvé chaussures à leurs pieds avant le Covid ou par le passé. Donc on a une diversification de l'occupation, mais une intensification des prises à l'aille. Et puis cette année, je le disais, retour des grosses transactions. On sait qu'il y a plusieurs grosses recherches qui sont en train de tourner, dont on espère qu'elles vont atterrir et aboutir dans le quartier d'affaires. Mais il y a déjà les exemples que je viens de citer qui montrent que même pour les grands comptes, on reste attractif.
Alors moi j'avais noté, vous me dites si je me trompe, que la Défense comptait environ 4 millions de mètres carrés de bureaux. Près d'un million de mètres carrés seraient transformés ou restructurés dans les prochaines années.
Alors le 1 million de mètres carrés mètre carré, en fait, c'est l'estimation qu'on avait faite à la sortie du Covid, qui n'est pas scientifique à la virgule près, mais okay. qui reste valable, du parc techniquement obsolète, donc soit vide, soit appelé à l'être, des bureaux qui n'ont pas été... En gros, 1 million de mètres carrés, c'est les bureaux qui n'ont pas été rénovés depuis l'an 2000, depuis qu'il existe des réglementations thermiques, on va dire modernes, en France. Donc cela, on peut raisonnablement se dire que soit ils sont vides et voués à le rester, soit ils le seront quand le dernier occupant s'en ira. Donc on considère que notre terrain de jeu, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, absolument pas, mais notre terrain de jeu est là où on doit focaliser nos efforts côté public, les efforts des investisseurs, les efforts de toute la chaîne de valeur, c'est la transformation, la remise à flot et la remise sur le marché de ce 1 million de mètres carrés. Donc on ne va pas tout transformer, y compris, je le disais à l'instant, parce qu'on a toujours besoin de proposer une offre de première qualité aux entreprises qui la recherchent. Il y a à peu près 300 000 mètres carrés sur ce 1 million qui ont déjà fait l'objet de rénovation ces toutes dernières années. On peut citer les opérations Altiplano, Ariane, Aurore, etc. Des tours ou des immeubles Code du Travail qui ont été remis sur le marché et très bien reloués. Mais on sait aussi qu'une partie de ce parc devra être la matière première du changement d'usage que vous évoquiez tout à l'heure. Hein, on le sait, parmi les cases à cocher, les contraintes et les exercices à accomplir pour rendre la défense plus soutenable, plus durable et tout simplement plus attractive, il faut développer cette fameuse mixité fonctionnelle. Il faut créer du logement, il faut créer de l'hébergement, continuer d'accueillir des écoles, des étudiants, développer des commerces,
des loisirs. Ouais.
Voilà, toute la
palette. Vision 2050, ça.
C'est la vision même 2026 ou 27, si on peut, mais c'est à terme, ça devra effectivement évoluer comme ça. Hein, je ne vais pas reprendre le paradigme un peu tarte à la crème de la ville du quart d'heure, mais c'est quand même bien ça le sujet. Si on veut continuer d'attirer et de retenir des salariés des entreprises, il faut pouvoir leur dire, c'est toujours ça le défi, que leur temps sera mieux utilisé, qu'ils s'épanouiront davantage en venant travailler à la Défense, que soit en restant chez eux en télétravail, soit en allant dans des destinations plus traditionnelles comme le QCA à Paris. Et pour ça, il nous faut plus de ce que je viens de lister. Et plutôt que de construire sur du foncier qu'on n'a plus, parce que le quartier commence quand même à être un peu plein comme un œuf, et puis on sait que construire même bas carbone, c'est toujours moins bien que d'utiliser ce qui est déjà là, on se donne un cap de transformation. Donc concrètement, on l'a présenté au MIPIM en début d'année, on se dit que sur une dizaine d'années, si déjà on peut mettre en chantier 400-500 000 mètres carrés de bureaux obsolètes à transformer, on aura fait une bonne partie du chemin. Et donc ça nous a donné une stratégie territoriale, un plan de transformation qui a été largement concerté avec les acteurs privés et qu'on va décliner donc dans les années qui viennent.
On parlait tout à l'heure du taux de vacances qui commençait un petit peu à nouveau à diminuer. Certains propriétaires préfèrent-ils pas laisser finalement leurs bureaux vides plutôt que de perdre de la valeur en les transformant par exemple en logement ?
C'est clairement l'un des sujets les plus épineux auxquels on fait face aujourd'hui, pas seulement à la Défense. Hein, problématique de l'ajustement des valeurs. Et effectivement, tant que vous avez des propriétaires, et nous en avons, il ne s'agit pas de jeter la pierre à quiconque, mais qui continue en 2026 de valoriser des immeubles de bureaux, y compris vides, hein, selon des hypothèses de marché d'il y a 10, 15 ou 20 ans, eh bien, ça ne marche jamais, puisque aucune opération de reconversion, de transformation, même de restructuration de bureau en bureau, n'a de sens économique. Donc ce mouvement, enfin cette rigidité, on va dire, commence à mon sens à diminuer et à s'effriter à mesure qu'on a des early adopteurs, des opérateurs privés un peu plus volontaires, voire beaucoup plus volontaires, plus innovants que les autres, qui s'engagent. Hein, toutes les opérations que j'ai citées, CB3, Altiplano, etc., ce sont des investisseurs qui ont su prendre leurs risques, qui ont su investir dans des immeubles de bureaux obsolètes, s'engager sur des hypothèses de rentabilité qui ne sont pas toujours confirmées par la réalité, parce qu'on sait qu'il y a une pression, le marché est très suroffreur en Ile-de-France aujourd'hui. Hein. Donc il y a une pression à la baisse sur les loyers qui est systématique, même dans le QCA de Paris, sauf quelques biens d'exception. Donc la Défense n'y fait pas exception. Donc c'est sûr que c'est difficile de s'y retrouver. Ça l'est encore plus quand on transforme des bureaux en logement pour toutes les raisons que tout le monde désormais connaît bien. Le fait qu'on perde la surface, que ça coûte plus cher, que les prix, la rentabilité du logement est elle-même contrainte. On n'arrivera pas, je pense, de toute façon, ça n'est pas souhaitable d'un point de vue urbain, à transformer massivement nos bureaux obsolètes en logements traditionnels, en copropriété. Ce serait trop difficile à gérer. Et effectivement, d'un point de vue économique, c'est trop compliqué. En revanche, on commence à voir se développer des propositions hybrides qui ne sont pas vraiment du logement, mais qui peuvent être de l'hôtellerie, qui peuvent être du logement étudiant, qui peuvent être du logement pour jeunes actifs, qu'il faut aussi qu'on régule. Hein. Il ne s'agit pas de tout transformer nos bureaux en résidence étudiante privée, mais il y a des besoins évidents. de logements des jeunes actifs, vu l'état du parc locatif privé, de logements de nos 70 000 étudiants sur le territoire, hein, 35 000 à la fac de Nanterre, 35 000 dans les grandes écoles. Ils ne peuvent pas se loger sur le territoire parce qu'il n'y a pas assez d'offres étudiantes. Donc, l'hôtellerie, ça peut sembler une plaisanterie, mais ça ne l'est pas du tout. On va avoir 17 fois 40 000 personnes qui vont venir voir Céline Dion à l'automne, à la France,
à l'extérieur.
Encore l'année prochaine. Il y avait à la Plénitude Arena, à l'Accor Arena. Ouais.
Excusez-moi. Vous avez raison.
Là, il y a eu les JO récemment. Enfin, on commence à avoir une fréquentation, et c'est très bien, c'est génial, de la Défense par des touristes, par des visiteurs internationaux. On n'est pas capable de leur proposer une offre hôtelière à la hauteur, en tout cas quantitativement. Donc voilà, tout ça, ça nous donne des pistes de travail qui, à mon sens, pour les investisseurs, sont quand même beaucoup plus digestes que simplement transformer les bureaux en copropriété de logement. Et donc, c'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui.
Et si on parle quand même de la transformation en logement, il y a combien de tours aujourd'hui qui sont capables techniquement et économiquement d'être transformés justement en logement?
Alors, je crains honnêtement qu'il n'y en ait pas beaucoup, voire aucune. Tant en tout cas qu'on n'a pas cette question de l'ajustement des valeurs. Je complète d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. Il y a certes une question de rigidité des propriétaires, mais il y a aussi une question de rigidité du marché du logement derrière. Tant que vous avez... C'est pas mon rôle de dire si c'est bien ou mal. C'est un fait. Vous avez les quotas SRU, vous avez l'encadrement des loyers, vous avez toutes sortes de contraintes techniques, réglementaires, qui font que rentabiliser une opération de vrai logement, c'est extrêmement difficile dans du bureau existant. Et s'ajoute à ça la contrainte de la grande hauteur, des copropriétés en grande hauteur. Alors, on a fait en masse en France dans les années 70, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et avec les normes de l'époque, c'est encore plus compliqué parce que ça coûte cher à faire fonctionner, c'est très contraignant à l'usage. Donc, je pense vraiment qu'au moins pour les tours, le scénario le plus souhaitable et le scénario de moindre contrainte, c'est la transformation plutôt en produit résidentiel, en résidentiel géré, en hôtellerie.
Oui.
On a aussi des immeubles qui ne sont pas des tours. Il y a une grosse soixantaine d'IGH à la Défense, mais il y a aussi plein d'immeubles Code du Travail. Et cela, clairement, on va, en bonne intelligence avec l'État, les élus locaux et tous ceux qui sont concernés par le sujet, plutôt inviter à y faire du vrai logement, effectivement.
Le parc urbain va changer l'image de la dalle qu'on peut avoir. Est-ce que ça va suffire à rendre finalement le quartier vivable, et notamment pendant ces périodes de canicule qu'on a connues à répétition là?
Alors, c'est effectivement important de faire preuve de nuance là-dedans, parce que nous-mêmes, quand on s'est engagé dans la décarbonation de la Défense, qu'on a adopté notre raison d'être, dit qu'on allait diviser de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, engagement qu'on a pris il y a 5 ans, qui pour l'instant, quantitativement, sont tenus, on s'est focalisé, comme tout le monde, sur l'atténuation du changement climatique, sur la résorption des émissions de gaz à effet de serre, du bilan carbone, etc. C'est ce qui nous a amené, on en parlait à l'instant, à pousser les feux sur la transformation, la rénovation des bâtiments existants, sur les transports en commun, je rappelle, un prolongement du RER E, le Grand Paris Express qui est en cours, toutes les pistes cyclables, tout ce qu'on fait sur les infrastructures pour abattre les sources d'émissions carbone principales d'un quartier comme la Défense, qui sont très majoritairement les transports et les bâtiments existants. Mais c'est pas ça qui rend, et l'été dernier, l'été 2026, je me rappelle, c'est pas ça qui rend du jour au lendemain un quartier vivable. Parce que c'est pas en abattant de 50, de 60, de 80% bilan carbone qu'on résout les îlots de chaleur, qu'on résout les problèmes d'approvisionnement en eau. On n'a pas été en pénurie d'eau, mais on sait que la tension est nationale.
C'est simpliste de dire ça.
Voilà. C'est pas avec ça qu'on passe les tensions sur le réseau énergétique qu'on a eu il y a quelques hivers. Et donc, on doit déjà, dorénavant, se pencher sur la question de l'adaptation au changement climatique, comme tous les territoires urbains, et avec les particularités de l'urbanisme de dalle, de la densité de la Défense. Donc, le travail qu'on fait sur les espaces publics, parliez du parc, ce parc de 5 hectares qu'on est en train de construire sur l'esplanade, les travaux sont complètement en cours. Si vous allez voir la Défense aujourd'hui, vous voyez la partie de dalle qui est éventrée et la terre et les plantations qui commencent à arriver. Donc ça, c'est en cours. Les transformations de la Rose de Cherbourg il y a quelques années, de la place de la Défense, qu'on fera demain sur le parvis central, tout ça est en cours. C'est pas avec ça qu'on va réduire de manière significative le bilan carbone du territoire. C'est pas les espaces publics qui font la consommation de carbone. Mais en revanche, effectivement, ça va avoir un effet très direct, en revanche, sur la vivabilité du quartier dans les périodes notamment climatiques un peu extrêmes qu'on a connues. Ça va avoir un effet d'image et d'agrément qui a déjà généré un effet d'entraînement sur les bâtiments alentours. Et puis voilà, et on doit réellement jouer sur les deux tableaux à la fois, parce qu'on peut se dire qu'investir ce qu'on est en train de faire, des dizaines de millions d'euros, parce que c'est cher tout ça, sur le fait de faire un parc urbain sur dalle, mais on aurait mieux fait d'utiliser cet argent à faire une forêt ailleurs. Mais sauf que les salariés, ils ne sont pas ailleurs, ils sont là, et on doit leur proposer un cadre de vie agréable, vivable, y compris dans ces périodes climatiques extrêmes qui vont se multiplier. Donc c'est vraiment adaptation et atténuation, les deux jambes à la fois, et c'est loin d'être simple, je vous l'assure.
Et qu'on ait envie d'y vivre aussi le soir, la nuit, ça aussi c'est...
Mais ça, voilà, c'est, en réalité, c'est le premier sujet qui avait été identifié, si vous vous repenchez sur des communications, des interviews de mes prédécesseurs, même avant le Covid, c'était ouais. déjà ça qui était identifié comme le premier sujet, le fait qu'il faille garder les gens après 18h et qu'ils ne rentrent pas tous en masse dans le RER, d'où le développement accéléré de restaurants, d'où l'aréna dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a de quoi vivre à la Défense le soir. Et effectivement, les gens ne le feront que s'ils y voient un intérêt et une plus-value par rapport au fait de rentrer à Paris. Et ça renvoie effectivement à la question de l'agrément de l'espace public. Et c'est pour ça que c'est fondamental de transformer de manière accélérée le quartier comme on le fait aujourd'hui.
Ah ouais. Quel indicateur concret va permettre de dire que finalement, en 2030, parce que c'est quasiment demain, que la transformation a réussi presque, même si on est en cours de transformation, évidemment?
Ah, y en a pas un seul, et si on doit en chercher un seul, je serais vraiment pas original. Je pense qu'il faut rester quand même dans le pilotage de la vacance des bureaux, parce que la vacance des bureaux, certes, ça intéresse les brokers et les investisseurs, mais ça doit aussi nous concerner en tant qu'acteurs publics, parce que si on a 15% de vacances comme on avait comme on avait en 2021 et 2022, ça veut dire quand même à un moment ou à un autre qu'on n'a pas très bien fait notre boulot, qu'on a laissé se développer une suroffre tertiaire qui ne sert à rien, qui gâche de l'espace, qui gâche du carbone. Donc si on arrive à ramener cette vacance, c'est concrètement tout ce qu'on fait, ça concourt à ça, autour de 7-8% qui est le seuil, on va dire, d'efficience du marché, mais ça voudra dire qu'on aura réussi à sortir une partie de cette vacance de son état actuel en faisant des transformations, en attirant de nouvelles entreprises, qu'on aura recréé de la valeur, puisque c'est quand même le nerf de la guerre pour les investisseurs, et donc que les choses iront mieux. Derrière ça, ben, la performance environnementale elle-même, je l'ai dit, on a une trajectoire carbone qui est scientifique, qui est documentée, qui est quantifiée, et donc cet objectif de 2030 de diviser par deux l'empreinte carbone du territoire par rapport au point de référence, je le dis, pour l'instant, on le tient, on sait ce qu'il nous reste à faire, on sait qu'il faut maintenir le rythme de transformation des bâtiments existants, toutes choses dont on n'a pas parlé, des travaux sur le réseau de chaleur, sur la rénovation de nos infrastructures souterraines, des parkings, etc. Tout ça, c'est en cours. On a un plan d'investissement, une dynamique d'investissement qui a été engagée à la création de Paris La Défense sous sa forme actuelle il y a 10 ans, qui se termine. Donc, tout ça est sous contrôle. Donc, si on arrive... Encore une fois, atténuation, adaptation. Adaptation, ça veut dire adapter les usages, mais aussi l'offre immobilière à la réalité de la demande. Et puis atténuation, c'est agir sur le dur, sur ce qui coûte du carbone et ce qui fait que la Défense, aujourd'hui, est encore un peu problématique, un peu mauvais élève. Il ne faut pas se le cacher en termes climatiques, en termes d'impact carbone. Et demain, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne et ce qui nous fait lever tous les matins devra être, sinon le premier de la classe, du moins un exemple.
Bon, vous allez applaudir Céline Dion bientôt, là ?
Ah bah, j'y manquerai pas, ça commence dans 10 jours.
Mais oui.
Et alors, bon, on a déjà testé avec les JO, j'en parlais avec Taylor Swift, avec un certain nombre de grands événements. Mais ce sera quand même, je peux aimer ou pas Céline Dion, chacun est libre de son appréciation, c'est absolument pas le sujet. Mais ce sera, je pense, pour tous ceux qui feront cette expérience, une occasion de voir et de vivre la Défense, que les gens connaissent ou pas la Défense, de manière radicalement différente. Prendre un exemple un peu plus récent que les JO, on a accueilli pour la première fois à l'automne dernier le tournoi de tennis qui était historiquement à Bercy, le Rolex Paris Masters.
Qui était d'habitude dans le 12e.
Exactement. Voilà. Pendant 10 jours, la Défense a vécu comme un village avec des gens qui allaient, qui venaient, qui découvraient le territoire, qui allaient acheter des t-shirts ou des glaces ou des hamburgers sur le... manger autre chose que des hamburgers, mais il y a beaucoup d'hamburgers à la Défense, en sortant de l'aréna qui venait, etc. Et ça change complètement parce qu'on parlait de transformer la Défense en quartier de ville, enfin on parle, c'est un peu ce qui est toujours sous-jacent à ce genre d'échange. C'est vraiment par ces grands événements, ces grands événements qu'on y arrive, parce qu'on fait venir une population massive, une population qui s'approprie.
Mais il ne faut pas que ça reste simplement des séquences, quoi, en fait. Il faut que...
Bon, le fait que, en l'occurrence, l'aréna vienne de changer de propriétaire avec un nouvel investisseur qui a l'intention d'intensifier son usage devrait nous aider, mais il faut effectivement qu'on prenne le relais. Je vais citer un exemple. On se bat avec l'État, avec un certain nombre de partenaires culturels pour obtenir l'ouverture au public de la Grande Arche de la Défense. On a un grand monument culturel, patrimonial à la Défense, qui est cette Grande Arche, qui a quasiment toujours été fermée au public. Alors, on ne va pas inviter les gens à se promener dans les bureaux du ministère de l'Écologie, dans les parois de l'Arche, mais en revanche, il y a le toit de l'Arche, qui est un merveilleux rooftop. C'est quelque chose qui a toujours manqué à la Défense. Des rooftops, des occasions de se projeter, de venir tout simplement visiter, prendre des photos.
Et là, la vue, elle est incroyable.
La vue, elle est dingue. Vous êtes en plein milieu de l'axe historique. Ouais. Vous voyez le Grand Paris à 360 degrés. Il y a des locaux d'exposition, il y a des locaux d'accueil du public. Il y a un restaurant dans ce toit qui sont fermés depuis des années. Ouais. On travaille pour le rouvrir.
Cool.
C'est vraiment voilà, ce maillage avec, ça va du petit fast-food, je reste sur mon paradigme du hamburger qui est quand même fondamental, au grand concert de Céline Dion, en passant par toute l'offre culturelle, événementielle qu'on peut proposer au quotidien, le marché de Noël qui va revenir bientôt, notre événement estival qui vient de se terminer, qu'on arrivera voilà, à créer, c'est absolument ça, une continuité d'occupation et d'usage qui changera l'image et la perception qu'on a du quartier.
Mais ce sera à partir de quand, là, le toit, où on pourra visiter ?
Bah, c'est le plus tôt possible. Moi, si ça tenait qu'à moi, ça serait la semaine prochaine. Déjà, il suffit de l'ouvrir et on a des occupants qui sont intéressés. J'aimerais bien que ce soit l'année prochaine ou dans deux ans. Ça peut être du très court terme, en tout cas.
Okay. Un grand merci à vous.
Merci à vous
d'avoir gentiment répondu à nos questions. Merci également à vous de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité, toujours ici sur Radio Imo et Radio Territoria, depuis le Grand Palais, à l'occasion de cette 5e édition du CIPCA. À tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.